Chapitre 3. Motif. Les soldats rapportaient avoir été observés de loin par un nombre dérangeant d'éclaireurs par Shendi. Ensuite, nous avons remarqué un nouveau motif dans la façon dont ils s'approchaient des camps la nuit, avant de se retirer très vite. Je ne peux que présumer que nos ennemis préparaient alors déjà leur stratagème destiné à mettre fin à cette guerre. Extrait du journal intime de Navani Colin, Gézès, 1174. Mener des recherches sur la période précédente, la hiérocratie s'avère d'une difficulté frustrante, disait le livre. Lors du règne de la hiérocratie, l'église vorine disposait d'un contrôle quasi absolu sur la partie est de Rochar. Les mensonges qu'elle inventait, puis perpétuait comme des vérités absolues, finissaient par s'enraciner dans la conscience de la société. Plus dérangeant encore, des copies modifiées de textes anciens ont été fabriqués afin d'adapter l'histoire au dogme hiérocratique. Dans sa cabine, Shallan lisait à la lumière d'un gobelet de sphère, vêtu de sa chemise de nuit. Sa chambre exiguë ne possédait pas de hublot digne de ce nom, rien qu'une fenêtre en forme de fente étroite qui longeait le haut du mur extérieur. Elle n'entendait pas d'autre bruit que le clapotis de l'eau contre la coque. Cette nuit, le navire ne disposait pas de port où s'abriter. L'église de cette époque se méfiait des chevaliers radieux, poursuivait l'ouvrage. Cependant, elle reposait sur l'autorité que le vorénisme avait reçue des héros. En résultait une dichotomie dans laquelle on insistait lourdement sur la félonie et la trahison des chevaliers. Dans le même temps, on célébrait les chevaliers anciens, ceux qui avaient vécu aux côtés des héros lors des jours d'ombre. Il est par conséquent particulièrement compliqué d'étudier les radieux et cet endroit nommé Shadesmar. Quels sont les faits? Quels documents l'Église, dans cette regrettable tentative visant à nettoyer le passé de ce qu'elle percevait comme des contradictions, a-t-elle réécrit pour mieux servir le récit qu'elle lui préférait? Peu de documents de cette époque ont survécu sans passer par les mains vorines qui les ont recopiés dans des manuscrits modernes depuis les parchemins originaux. Shallan leva les yeux pour regarder au-dessus de son livre. L'ouvrage faisait partie des premiers travaux publiés de Jasna en tant qu'érudite. Ce n'était pas Jasna qui lui avait demandé de le lire. Elle avait même semblé hésiter quand Shallan lui en avait demandé un exemplaire et avait dû aller le dénicher au fond de l'une des nombreuses malles remplies de livres qu'elle conservait dans la cale du navire. Pourquoi s'était-elle montrée si réticente alors que ce volume traitait précisément des sujets qu'étudiait Shallan? N'aurait-elle pas dû le lui remettre d'emblée? C'était... Le motif réapparut. Le souffle de Shallan resta coincé dans sa gorge lorsqu'elle l'aperçut sur le mur gauche de la cabine, près de sa couchette. Elle reporta prudemment son regard sur la page qu'elle tenait devant elle. C'était le même motif qu'elle avait déjà vu. La forme apparut sur son carnet de croquis. Depuis, elle l'avait constamment entrevu du coin de l'œil. Il apparaissait dans le grain du bois, le dos de la chemise d'un marin, le miroitement de l'eau. Chaque fois qu'elle le regardait bien en face, le motif s'évanouissait. Jasna refusait de lui en apprendre davantage, sinon pour affirmer qu'il était probablement inoffensif. Shallan tourna la page et se força à respirer plus calmement. Elle avait déjà vécu quelque chose de semblable avec les étranges créatures à tête de symbole apparues à son insu dans ses dessins. Elle laissa ses yeux glisser au-dessus de la page pour regarder le mur, non pas droit vers le motif, mais sur le côté, comme si elle ne l'avait pas remarqué. Oui, il était bien là. Il était en relief, comme un gaufrage, et possédait un motif complexe doté d'une obsédante symétrie. Ses lignes minuscules se tortillaient à travers toute sa masse et soulevaient étrangement la surface du bois, comme un rinceau de fer sous une nappe tendue. C'était l'une de ces choses, les têtes de symboles. Ce motif ressemblait à leur tête étrange. Elle reporta son regard sur la page, mais sans reprendre sa lecture. Le navire tangua et les sphères blanches et luisantes remuèrent en cliquetant dans leur gobelet. Elle prit une profonde inspiration, puis regarda le motif bien en face. Il commença aussitôt à s'effacer et ses bords à s'abaisser. Mais avant qu'il y parvienne, elle réussit à le voir nettement et en capturer un souvenir. Pas cette fois, marmonna-t-elle tandis qu'il disparaissait. Cette fois, je te tiens. Elle rejeta son livre et s'empressa d'aller chercher son crayon de charbon et une feuille de papier. Puis elle se pelotonna près de sa lampe, ses cheveux roux cascadant autour de ses épaules. Elle travailla furieusement, possédée par un besoin désespéré de terminer ce dessin. Ses doigts bougeaient de leur propre chef et sa sage main nue tenait le carnet orienté vers le gobelet, qui constellait la page d'éclats lumineux. Puis elle abandonna le crayon. Il lui fallait quelque chose de plus solide, capable de tracer des lignes plus nettes. De l'encre. Le crayon était formidable pour représenter les douces nuances de la vie. Mais ce qu'elle était en train de dessiner n'était pas la vie. C'était autre chose, quelque chose d'irréel. Elle tira une plume et un encrier de ses fournitures, puis reprit son dessin et se mit à reproduire ses traits minuscules et complexes. Elle dessinait sans réfléchir. L'art la consumait tout entière et des sprènes de création apparaissaient autour d'elle. Des dizaines de formes minuscules envahirent bientôt la petite table près de sa couchette et le sol de la cabine près de l'endroit où elle était agenouillée. Les sprènes tournoyaient et s'agitaient, guère plus gros que le creux d'une cuillère, adoptant des formes qu'ils avaient récemment rencontrées. Elle les ignora pour la plupart, bien qu'elle n'en ait jamais vu autant à la fois. Elles se mirent à se transformer de plus en plus vite, à mesure qu'elle dessinait, absorbée par son travail. Le motif semblait impossible à capturer. Ces répétitions complexes se fondaient dans l'infini. Non, une plume ne parviendrait jamais à capturer parfaitement ce motif. Mais Shallan en approchait. Elle décrivit une spirale née d'un point central, puis recréa chaque branche qui partait du centre, possédant chacune son propre tourbillon de traits minuscules. Il évoquait un labyrinthe destiné à rendre fou son prisonnier. Lorsqu'elle eut tracé le dernier trait, elle s'étonna de se trouver à bout de souffle, comme si elle venait de courir sur une grande distance. Elle cligna des yeux et reprit conscience de la présence des sprènes de création autour d'elle. Il y en avait des centaines. Ils s'attardaient avant de disparaître un par un. Shallan posa la plume près de son flacon d'encre, qu'elle avait collé à la table avec de la cire pour l'empêcher de glisser quand le navire tanguait. Elle prit la page, attendit que les derniers traits d'encre sèchent et eut la sensation d'avoir accompli quelque chose d'important, sans bien savoir quoi au juste. Tandis que le dernier trait séchait, le motif se suréleva devant elle. Elle entendit un soupir très net s'échapper du papier, comme sous l'effet du soulagement. Elle sursauta, laissa tomber la page et se précipita sur son lit. Contrairement aux fois précédentes, le relief ne s'évanouit pas, mais il quitta le papier, s'épanouissant à partir de son dessin et se déplaça sur le sol. Elle ne pouvait pas le décrire autrement. Le motif se déplaça curieusement du papier vers le sol. Il atteignit le pied de sa couchette et s'y enroula, puis grimpa vers le haut jusqu'à sa couverture. Il ne donnait pas l'impression que quelque chose se déplaçait sous la couverture. Ce n'était qu'une approximation grossière. Les lignes étaient bien trop précises et le tissu ne se tendait pas. Un objet se trouvant sous la couverture n'aurait formé qu'une masse indistincte. Mais cette forme-ci était précise. Il s'approcha. Il ne semblait pas dangereux, mais elle se surprit à trembler malgré tout. Ce motif-là était différent des têtes de symboles de ses dessins, mais il leur était également semblable, d'une certaine façon. Une version aplatie, sans torse ni membre. C'était une abstraction de l'un d'entre eux, de la même façon qu'un cercle contenant quelques traits pouvait figurer un visage humain. Ces créatures l'avaient terrifiée, hantée, lui avaient fait redouter de devenir folle. Quand celle-ci approcha, Shallan sortit précipitamment et s'en éloigna autant que la petite cabine le lui permettait. Puis, le cœur cognant dans sa poitrine, elle ouvrit la porte pour aller rejoindre Jasna. Elle la trouva de l'autre côté, main tendue vers le bouton de la porte, tenant la main gauche en coupe devant elle. Une petite silhouette se tenait debout dans sa paume, faite d'une substance noire pareille à l'encre, qui adoptait la forme d'un homme vêtu d'un élégant costume à la mode avec un long manteau. Il se volatilisa parmi les ombres lorsqu'il vit Shallan. Jasna se tourna vers elle, puis regarda le sol de la cabine sur lequel filait le motif. « Habillez-vous, mon enfant », lui dit Jasna. il y a des choses dont nous devons parler. J'avais espéré au départ que nous aurions le même type de spren, déclara Jasna, assise sur un tabouret dans la cabine de Shallan. Le motif restait immobile sur le sol entre elles deux. Shallan reposait à plat ventre sur sa couchette, vêtue d'une robe de chambre par-dessus sa chemise de nuit, et d'un mince gant blanc à la main gauche. Mais bien entendu, ce serait trop facile. Je soupçonne depuis Carbrand que nous devons appartenir à différents ordres.
Quels ordres, Clarissime ?
Demanda Shallan, qui tâtait timidement le motif à terre du bout d'un crayon. Il recula comme un animal qu'on taquine à l'aide d'un bâton. La façon dont il surélevait la surface du sol fascinait Shallan, bien qu'une partie d'elle souhaite n'avoir rien à faire avec lui, ni avec son étrange et perturbante géométrie.
« Oui, » répondit Jasna.
Le spren noir d'encre qui l'accompagnait un peu plus tôt n'avait pas reparu. Chaque ordre était censé avoir accès à deux des flux, qui se chevauchaient parfois. Nous appelons ces pouvoirs la fluctomancie. La spiricantation était l'un d'entre eux, et c'est celui que nous partageons, bien que nous appartenions à des ordres différents. Shallan hocha la tête. La fluctomancie. La spiricantation. C'était là les talents des radieux enfuis, les pouvoirs supposés légendaires qui avaient été leur bénédiction ou leur malédiction, selon les récits que vous lisiez. C'était du moins ce que lui avaient appris les livres que Jasna lui avait donnés à lire pendant leur trajet.
« Je ne fais pas partie des radieux, » objecta Shallan.
« Bien entendu, » répliqua Jasna. « Et moi non plus. Les ordres de chevaliers étaient une construction, comme toute forme de société, dont les hommes se servent pour définir et expliquer les choses. Tous les hommes qui manient la lance ne sont pas des soldats. Toutes les femmes qui cuisent du pain ne sont pas boulangères. Cependant, les armes, comme la fabrication du pain, deviennent la marque de certaines professions.
Alors vous êtes en train de me dire que nos capacités définissaient autrefois ce qui faisait admettre quelqu'un au sein des chevaliers radieux, compléta Jasna.
Mais nous sommes des femmes.
Oui, acquiesça Jasna sur un ton badin. Les sprennes ne sont pas affligées par les mêmes préjugés que la société humaine. Rafraîchissant, ne trouvez-vous pas ?
Shallan leva les yeux du spren qu'elle continuait à titiller.
Il y avait des femmes parmi les chevaliers radieux ?
Un nombre adéquat sur un plan statistique, répondit Jasna. Mais ne craignez pas de vous retrouver bientôt contrainte à manier l'épée, mon enfant. L'archétype des radieux sur un champ de bataille est une exagération. D'après ce que j'ai lu, bien que les documents ne soient malheureusement pas très fiables, pour chaque radieux affecté au combat, trois autres consacraient leur temps à la diplomatie, à l'érudition ou à d'autres manières d'aider la société.
Ah! Pourquoi cette réponse décevait-elle Shallan? Idiote!
Un souvenir lui revint malgré elle. Une épée argentée. Un motif de lumière. Des vérités qu'elle n'était pas en mesure d'affronter. Elle les chassa et ferma très fort les yeux. 10 battements de cœur.
J'ai fait des recherches sur les spren dont vous m'avez parlé, reprit Jasna. Les créatures à tête de symbole.
Shallan inspira profondément et ouvrit les yeux.
« Celui-ci en fait partie », déclara-t-elle en pointant son crayon vers le motif,
qui s'était approché de sa malle et qui y montait, puis en descendait comme un enfant qui saute sur un canapé. Il lui semblait moins menaçant qu'innocent, et même plutôt espiègle, et pas très intelligent par-dessus le marché.
En avait-elle vraiment eu peur ?
« Oui, je soupçonne que oui », répondit Jasna. « La plupart des sprennes se manifestent différemment ici et à Shadesmar. » Ce que vous dessiniez auparavant, c'était la forme qu'il possède là-bas.
Celui-ci n'est pas très impressionnant.
En effet, je vous avoue que je suis déçue. J'ai la sensation que quelque chose d'important nous échappe dans tout ça, Shallan, et ça me contrarie. Les cryptiques ont une réputation redoutable. Pourtant, celui-ci, le premier spécimen que j'ai jamais vu, paraît...
Il grimpa le long du mur, redescendit en glissant, grimpa de nouveau et glissa une fois encore.
« Idiot ?» demanda Shallan.
« Il lui faut peut-être simplement plus de temps, » suggéra Jasna. « Au départ, quand je me suis liée avec Ivoire... »
Elle s'interrompit brusquement.
« Qu'y a-t-il ? »
s'enquit Shallan. « Je suis désolée. Il n'aime pas que je parle de lui. Ça l'inquiète. Les Spren ont beaucoup souffert que les chevaliers aient rompu leur serment. De nombreux Spren sont morts, j'en suis persuadée. Bien qu'Ivoire refuse d'en parler, je suppose que ses semblables considéraient ce qu'il a fait comme une trahison.
Mais...
N'en parlons plus, insista Jasna. Je suis désolée.
Entendu. Vous avez mentionné les cryptiques ?
Oui, répondit Jasna en plongeant la main dans sa sage manche pour en tirer un morceau de papier plié, l'un des dessins de Shallan représentant les têtes de symboles. C'est le nom qu'ils se donnent, quoique nous les appellerions sans doute Spren de mensonge. Ils n'apprécient pas ce terme. Enfin bref, les cryptiques dirigent l'une des plus grandes cités de Shadesmar. Considérez-les comme les pâles iris du royaume cognitif.
Donc cette créature, reprit Shallan en désignant le motif qui décrivait des cercles au milieu de la cabine, est une sorte de prince de leur côté ?
Quelque chose dans ce genre-là.
Il existe un conflit complexe qui les oppose aux Spren d'honneur. La politique des Spren est un sujet auquel je n'ai guère pu consacrer de temps. Ce Spren sera votre compagnon et vous accordera la capacité de spiricanter, entre autres choses.
Quelles autres choses ?
Il va nous falloir attendre pour le voir, répondit Jasna. Tout dépend de la nature du Spren. Qu'ont révélé vos recherches ?
Avec Jasna, tout semblait être un exercice d'érudition.
Shallan étouffa un soupir.
C'était la raison même pour laquelle elle avait suivi Jasna au lieu de retourner chez elle. Malgré tout, elle aurait parfois préféré qu'elle se contente de lui donner des réponses au lieu de la faire travailler si dur à les découvrir. D'après Alaï, les Spren sont des fragments des pouvoirs de création. Une grande partie des érudits que j'ai lus s'accordent sur ce point.
C'est une opinion. Que signifie-t-elle ?
Shallan s'efforça de ne pas se laisser distraire par le Spren sur le sol. Il existe 10 flux fondamentaux, ou 10 forces, sur lesquelles repose le fonctionnement du monde. La gravitation, la pression, la transformation, ce genre de choses. Vous m'avez dit que les Spren étaient des fragments du royaume cognitif qui ont, d'une manière ou d'une autre, acquis la conscience grâce à l'attention humaine. Dans ce cas, il va sans dire qu'ils étaient autre chose auparavant. De la même manière qu'un tableau était une toile avant qu'on lui donne vie.
Qu'on lui donne vie ? S'étonna Jasna.
Bien sûr, répondit Shallan. Les tableaux étaient vivants. Pas comme une personne ou un Spren, mais... En tout cas, c'était évident à ses yeux. Donc, avant que les Spren ne prennent vie, ils étaient autre chose. Du pouvoir, de l'énergie. Zenfi Vat a dessiné des Spren minuscules qu'elle découvrait parfois autour d'objets pesants. Des Spren de gravitation. Des fragments du pouvoir ou de la force qui nous fait tomber vers le sol. Il va sans dire que chaque Spren était un pouvoir avant de devenir un Spren. On peut les séparer en deux catégories générales. Ceux qui réagissent aux émotions et ceux qui réagissent à des forces comme le feu ou la pression du vent.
Donc vous croyez à la théorie de Namar sur la catégorisation des Spren ?
Oui.
Parfait, répondit Jasna. Moi aussi. Je soupçonne personnellement que ces catégories de Spren, ceux des émotions contre ceux de la nature, sont à l'origine de l'idée des dieux de l'humanité primitive. Honneur, qui est devenu le tout-puissant du vorinisme, a été créé par des hommes à la recherche d'une représentation des émotions humaines idéales, qu'ils percevaient chez les Spren des émotions. Culture, qu'on vénère dans l'Ouest, est une divinité féminine qui incarne la nature et ses Spren. Les différents Spren du néant, avec leur seigneur invisible, dont le nom varie d'un peuple à l'autre, évoquent un ennemi ou un adversaire. Le père des tempêtes, bien entendu, est une étrange émanation de tout ça, dont la nature théorique varie en fonction de l'ère du morinisme qui s'exprime. Elle s'interrompit. Shallan rougit lorsqu'elle s'aperçut qu'elle avait détourné le regard et commençait à tracer un charme glyphique sur sa couverture pour conjurer l'hérésie des paroles de Jasna.
« C'était une digression, » reprit celle-ci. « Veuillez me pardonner. »«
Vous êtes tellement persuadé qu'il n'existe pas, » lui dit Shallan, « le Tout-Puissant. »«
Je n'ai pas davantage de preuves de son existence que de celles des passions thaïlènes. de Nouralik, du lac limpide, ni de toute autre religion. Et les héros?
Vous ne pensez pas qu'ils aient existé?
Je l'ignore, répondit Jasna. Il y a beaucoup de choses dans ce monde que je ne comprends pas. Par exemple, il existe une preuve infime que le père des tempêtes et le Tout-Puissant soient des créatures réelles, simplement des sprennes puissants, comme la veille nuit.
Dans ce cas, il existerait bien.
Je n'ai jamais affirmé le contraire, précisa Jasna. J'ai simplement déclaré que je ne l'acceptais pas en tant que dieu et que je n'avais aucune envie de le vénérer. Mais je digresse, une fois encore. Jasna se leva. Je vous libère de vos autres devoirs. Au cours des prochains jours, vous n'aurez qu'un seul sujet d'étude sur lequel vous concentrer. Elle désigna le sol.
Ce motif ? Demanda Shallan.
Vous êtes la seule personne depuis des siècles qui ait eu la chance d'interagir avec un cryptique, répliqua Jasna. Étudiez-le et fournissez-moi un compte-rendu détaillé de votre expérience. Ce sera sans doute votre premier écrit d'importance et il pourrait se révéler capital pour notre avenir. Shallan étudia le motif qui s'était approché pour venir se cogner contre son pied. Elle n'éprouva qu'un faible choc et revenait y buter de temps à autre.
Génial,
commenta-t-elle.